Chaque lundi, nulle lassitude quand je franchis les portes du lycée. Je suis professeur d'anglais depuis presque 15 ans, mais je n'ai jamais oublié pourquoi j'aime tant donner cours. Pendant une heure, je suis au centre de l'attention. Je maîtrise la durée, ma voix remplit l'espace. Je suis aussi traductrice pour une maison d'édition. C'est peut-être cette double vie qui a maintenu intacte en moi la flamme de l'enseignement. Sur le parking réservé aux professeurs, je croise le proviseur. On discute quelques instants. Puis arrive le moment que j'attendais. Il me demande des nouvelles de mon mari. Je réponds que mon mari va bien. Cette expression me fait toujours le même effet 13 ans après notre mariage. Des frissons de fierté quand je glisse que « mon mari travaille dans la finance » à un dîner. Quand je précise à la maîtresse de ma fille devant les grilles de l'école que « c'est mon mari qui viendra chercher les enfants jeudi ». Quand je vais chercher des pâtisseries à la boulangerie et que j'annonce que « mon mari a passé une commande mardi ». Quand je raconte l'air faussement détaché, alors qu'en réalité je trouve cela infiniment romantique, que j'ai rencontré mon mari par hasard à un concert de rock, lorsqu'on me demande comment nous nous sommes connus. Mon mari n'a plus de prénom. Il est mon mari. Il m'appartient. Le lundi a toujours été mon jour préféré. Parfois, il se pare d'un bleu profond et royal, bleu marine, bleu nuit, bleu égyptien ou bleu saphir. Mais plus souvent, le lundi prend l'apparence d'un bleu pratique, économique et motivant, adoptant la couleur des stylos Bic, des classeurs de mes élèves et des vêtements simples qui vont avec tout. Le lundi est aussi le jour des étiquettes, des bonnes résolutions et des boîtes de rangement. Le jour des choix judicieux et des décisions raisonnables. On m'a déjà dit qu'aimer le lundi était un truc de première de la classe. Que seuls les intellos pouvaient se réjouir que le week-end se termine. C'est peut-être vrai. Mais cela relève surtout de ma passion pour les débuts. Dans un livre, j'ai toujours préféré les premiers chapitres. Dans un film, les 15 premières minutes. Au théâtre, le premier acte. J'aime les situations initiales. Quand chacun est à sa place dans un monde à l'équilibre. En fin de matinée, je fais lire un texte à mes élèves. Puis je leur donne la parole à tour de rôle, je note du vocabulaire au tableau, leur communique les mots dont ils ont besoin pour parler. Ce sentiment de puissance est grisant. Dans l'extrait que nous étudions aujourd'hui, l'un des personnages porte le même prénom que mon mari. Mon cœur se serre chaque fois que je le vois écrit ou que l'un de mes élèves le prononce. Ensuite, nous traduisons et commentons un échange de vœux entre deux époux. Mes élèves sont familiers de cette tradition anglo-saxonne souvent reprise dans des séries américaines et souvent interrompue par un ancien amant en pleine reconquête. C'est l'occasion d'étudier l'utilisation de l'auxiliaire grâce à la réponse tant de fois espérée du « I do », « je le veux ». Pendant que les derniers élèves quittent la salle, j'ouvre les fenêtres pour faire disparaître l'odeur de fin de cours. Un mélange de transpiration et de feutre pour tableau blanc. Le mélange aussi des parfums trop sucrés, des filles, et trop musqués, des garçons. Les hormones adolescentes raffolent de ces effluves super concentrés qu'on trouve en grande surface. C'est peut-être ce genre de parfum que je devrais acheter. Je porte depuis des mois celui d'un petit parfumeur confidentiel que j'espérais torride, mais qui se révèle désespérément lisse sur ma peau. Comment savoir quels sont les parfums à la mode quand on a 16 ans? Je pourrais inventer un exercice sur le thème des odeurs et demander à mes élèves de décrire leurs parfums. À la fois instructif pour moi, trouver des idées pour un nouveau parfum, et pour eux, enrichir leur vocabulaire olfactif. Rosa est passée quand j'étais au lycée. Je m'arrange pour ne pas la croiser, car je ne sais jamais quoi lui dire. Je n'ai pas l'aisance des personnes riches depuis suffisamment longtemps pour savoir comment parler à ma femme de ménage. La voir nettoyer ma maison ne m'a jamais semblé être dans l'ordre des choses. Il flotte une douce odeur de propre. celle des serviettes moelleuses qui sentent fort la lessive dans la salle de bain, et des draps propres en lin, adoucis par le temps dans nos lits. Il n'y a plus aucune trace de doigts sur le grand miroir dans l'entrée. Les tomates rouges de la cuisine sont éclatantes. Les sculptures sur la cheminée, la couverture en laine sur le canapé, les bougies sur l'étagère, les livres dans la bibliothèque, les magazines d'art empilés sur la table basse, les cadres photos accrochés dans l'escalier. Chaque chose est à sa place. Même les fleurs du marché trônent au centre de la table de la salle à manger avec plus d'aplomb. Je suis sûre que Rosa a déplacé certaines tiges et arraché quelques feuilles pour mettre le bouquet davantage en valeur. Hier après-midi, mon mari est allé au marché. L'abondance qui règne dans notre cuisine m'émeut. De la brioche et de la confiture sur le plan de travail, notre corbeille à fruits remplie d'abricots et de pêches. Je sais que c'est idiot, mais plus mon mari fait des courses importantes, plus j'ai l'impression qu'il m'aime. C'est comme s'il investissait dans notre couple. Comme le primeur qui pèse un à un les petits sachets en papier, je peux quantifier son amour chaque dimanche à son retour du marché grâce au montant du ticket de caisse abandonné au fond du cabas. Au frais, des légumes et de la viande, de la tapenade du vendeur d'olives, une salade de pamplemousse au crabe de chez le traiteur, du fromage en grande quantité. Cette cuisine pleine à craquer fait battre mon cœur. 14h30. Il est un peu tôt pour relever le courrier, mais je ne risque pas grand-chose à y aller quand même. Je récupère la clé que je cache dans le double fond de ma boîte à bijoux. Je parcours l'allée, ouvre la boîte aux lettres, la peur au ventre, et découvre avec soulagement trois courriers qui n'ont rien d'inquiétant ou d'inhabituel. Aucune lettre manuscrite, aucune enveloppe sans timbre. Quand je lève les yeux, je me rends compte qu'un voisin m'observe quelques mètres plus loin. Paniqué, je le salue avant de me précipiter à l'intérieur. Il me faut quelques minutes pour retrouver mon calme. Je sais que c'est dans ces moments-là que je suis le plus susceptible de faire une erreur. Alors je me ressaisis. Je remets la clé dans le double fond de ma boîte à bijoux, à côté d'une bague qui brille toujours, bien qu'elle se soit un peu oxydée avec le temps. Elle a presque 20 ans, mais je la garde par nostalgie, malgré les risques que je connais. Et si mon mari tombait un jour dessus ? Comment pourrais-je lui expliquer que je possède un solitaire quasiment identique à celui qu'il m'a offert le jour où il m'a demandé en mariage ? Pourtant, ma vie avant lui ne le regarde pas. Je n'ai pas à tout lui dire. Les couples qui durent sont ceux dont le mystère n'a pas été percé. Par exemple, quelques mois après notre rencontre, je l'ai quitté. 2 semaines de battement où je suis retombée dans les bras d'un ancien amoureux, Adrien. On a pris un train et on est allé voir la mer. Puis un matin, j'ai laissé un mot sur l'oreiller et je suis partie retrouver celui qui allait devenir mon mari. Ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines d'hésitation, il n'a pas à le savoir.